Les clercs, dans les séminaires et les maisons religieuses, acquerront une formation liturgique à la vie spirituelle par une bonne initiation qui leur donne l'intelligence des rites sacrés et les y fasse participer de toute leur âme, et aussi par la célébration même des saints mystères et par les autres exercices de piété imprégnés d'esprit liturgique. Également, ils apprendront à observer les lois liturgiques de telle sorte que la vie des séminaires et des maisons de religieux soit profondément façonnée par l'esprit de la liturgie. Les prêtres séculiers ou religieux, déjà à l'œuvre dans la vigne du Seigneur, seront aidés par tous les moyens opportuns à comprendre toujours plus pleinement ce qu'ils accomplissent dans les fonctions sacrées, à vivre de la vie liturgique et à la partager avec les fidèles qui leur sont confiés. Formation liturgique des fidèles. Les pasteurs d'âme poursuivront avec zèle et patience la formation liturgique et aussi la participation active des fidèles, intérieurs et extérieurs, proportionnée à leur âge, leur condition, leur genre de vie et leur degré de culture religieuse. Ils acquitteront ainsi une des principales fonctions du fidèle dispensateur des mystères de Dieu, et en cette matière, ils ne conduiront pas leur troupeau par la parole seulement, mais aussi par l'exemple. Moyens audiovisuels et célébrations liturgiques. Les retransmissions d'actions sacrées par la radiophonie et la télévision, surtout s'il s'agit de la célébration du Saint Sacrifice, se feront avec discrétion et dignité, sous la conduite et la garantie d'une personne compétente, désignée à cette fonction par les évêques. La restauration de la liturgie. Pour que le peuple chrétien bénéficie plus sûrement des grâces abondantes dans la liturgie, la Sainte Mère l'Église veut travailler sérieusement à la restauration générale de la liturgie elle-même, car celle-ci comporte une partie immuable, celle qui est d'institution divine, et des parties sujettes aux changements qui peuvent varier au cours des âges ou même le doivent, si ici est introduit des éléments qui correspondent mal à la nature intime de la liturgie elle-même, ou si ces parties sont devenues inadaptées. Cette restauration doit consister à organiser les textes et les rites de telle façon qu'ils expriment avec plus de clarté les réalités saintes qu'ils signifient, et que le peuple chrétien, autant qu'il est possible, puisse facilement les saisir et y participer par une célébration pleine, active et communautaire. C'est pourquoi le Saint-Concile a établi ces normes générales. Normes générales. Le gouvernement de la liturgie. Le droit de régler l'organisation de la liturgie dépend uniquement de l'autorité de l'Église. Il appartient au siège apostolique et, selon les règles du droit, à l'évêque. En vertu du pouvoir donné par le droit, l'organisation de la liturgie appartient aussi, dans les limites fixées aux diverses assemblées d'évêques légitimement constituées, compétentes sur un territoire donné. C'est pourquoi absolument personne d'autre, même prêtre, ne peut, de son propre chef, ajouter, enlever ou changer quoi que ce soit dans la liturgie. Tradition et progrès. Afin que soit maintenue la saine tradition et que pourtant la voie soit ouverte à un progrès légitime pour chacune des parties de la liturgie qui sont à réviser, il faudra toujours commencer par une soigneuse étude théologique, historique, pastorale. En outre, on prendra en considération aussi bien les lois générales de la structure et de l'esprit de la liturgie que l'expérience qui découle de la récente restauration liturgique et des indultes accordés en divers endroits. Enfin, on ne fera des innovations que si l'utilité de l'Église les exige vraiment et certainement, et après s'être bien assuré que les formes nouvelles sortent des formes déjà existantes, par un développement en quelque sorte organique. On veillera enfin, dans la mesure du possible, à ce qu'il n'y ait pas de notables différences rituelles entre des régions limitrophes. Bible et liturgie. Dans la célébration de la liturgie, la Sainte Écriture a une importance extrême. C'est d'elle que sont tirés les textes qu'on lit, et que l'homélie explique ainsi que les psaumes que l'on chante. C'est sous son inspiration et sous son impulsion que les prières, les oraisons et les hymnes liturgiques ont jailli. Et c'est d'elle que les actions et les symboles reçoivent leur signification. Aussi, pour procurer la restauration, le progrès et l'adaptation de la liturgie, il faut promouvoir ce goût savoureux et vivant de la Sainte Écriture dont témoigne la vénérable tradition des rites, aussi bien orientaux qu'occidentaux. Révision des livres liturgiques. Les livres liturgiques seront révisés au plus tôt en faisant appel à des experts et en consultant des évêques de diverses régions du globe. Normes tirées du caractère de la liturgie en tant qu'action hiérarchique et communautaire. Les actions liturgiques ne sont pas des actions privées, mais des célébrations de l'Église, qui est le sacrement de l'unité, c'est-à-dire le peuple saint réuni et organisé sous l'autorité des évêques. C'est pourquoi elles appartiennent au corps tout entier de l'Église, elles le manifestent et elles l'affectent, mais elles atteignent chacun de ses membres, de façon diverse, selon la diversité des ordres, des fonctions et de la participation effective. La célébration commune. Chaque fois que les rites, selon la nature propre de chacun, comportent une célébration communautaire avec fréquentation et participation active des fidèles, on soulignera que celle-ci, dans la mesure du possible, doit l'emporter sur leur célébration individuelle et quasi privée. Ceci vaut surtout pour la célébration de la messe, bien que la messe garde toujours sa nature publique et sociale, et pour l'administration des sacrements. Dignité de la célébration. Dans les célébrations liturgiques, chacun, ministre ou fidèle, en s'acquittant de sa fonction, fera seulement et totalement ce qui lui revient en vertu de la nature, de la chose et des normes liturgiques. Même les servants, les lecteurs, les commentateurs et ceux qui font partie de la Schola Cantorum s'acquittent d'un véritable ministère liturgique. C'est pourquoi ils exerceront leurs fonctions avec toute la piété sincère et le bon ordre qui conviennent à un si grand ministère et que le peuple de Dieu exige d'eux à bon droit. Aussi faut-il soigneusement leur inculquer l'esprit de la liturgie selon la mesure de chacun et les former à tenir leur rôle de façon exacte et ordonnée. Participation active des fidèles. Pour promouvoir la participation active, on favorisera les acclamations du peuple, les réponses, le chant des psaumes, les antiennes, les cantiques et aussi les actions ou gestes et les attitudes corporelles. On observera aussi en son temps un silence sacré. Dans la révision des livres liturgiques, on veillera attentivement à ce que les rubriques prévoient aussi le rôle des fidèles. Liturgie et classe sociale. Dans la liturgie, en dehors de la distinction qui découle de la fonction liturgique de l'ordre sacré, et en dehors des honneurs dus aux autorités civiles conformément aux lois liturgiques, on ne fera aucunement exception des personnes privées ou du rang social, soit dans les cérémonies, soit dans les pompes extérieures. « normes tirées de la nature didactique et pastorale de la liturgie. Bien que la liturgie soit principalement le culte de la Divine Majesté, elle comporte aussi une grande valeur pédagogique pour le peuple fidèle, car dans la liturgie, Dieu parle à son peuple. Le Christ annonce encore l'Évangile, et le peuple répond à Dieu par les chants et la prière. Bien plus, les prières adressées à Dieu par le prêtre qui préside l'assemblée en la personne du Christ sont prononcées au nom de tout le peuple saint et de tous les assistants. Enfin, le Christ ou l'Église ont choisi les signes visibles employés par la liturgie pour signifier les réalités divines invisibles. Aussi, non seulement lorsqu'on lit ce qui a été écrit pour notre instruction, mais encore lorsque l'Église prie, chante ou agit, la foi des participants est nourrie, les âmes s'élèvent vers Dieu pour lui rendre un hommage spirituel et recevoir sa grâce avec plus d'abondance. Par suite, en exécutant la restauration, on devra observer les normes qui suivent. Harmonie des rites. Les rites manifesteront une noble simplicité, seront d'une brièveté remarquable et éviteront les répétitions inutiles. Ils seront adaptés à la capacité de compréhension des fidèles et en général il n'y aura pas besoin de nombreuses explications pour les comprendre. Bible, prédication et catéchèse liturgique. Pour qu'apparaisse clairement l'union intime du rite et de la parole dans la liturgie, dans les célébrations sacrées, on restaurera une lecture de la Sainte Écriture plus abondante, plus variée et mieux adaptée. Le moment le plus approprié pour le sermon, qui fait partie de l'action liturgique pour autant que le rite le permet, sera marqué même dans les rubriques. Et on accomplira très fidèlement et consciencieusement le ministère de la prédication. Celle-ci puisera en premier lieu à la source de la Sainte Écriture et de la liturgie, puisqu'elle est l'annonce des merveilles de Dieu dans l'histoire du salut, qui est le mystère du Christ, lequel est toujours là, présent et actif en nous, surtout dans les célébrations liturgiques. En outre, la catéchèse, plus directement liturgique, sera inculquée de toutes les manières, et dans les rites eux-mêmes, on prévoira de brèves monitions si elles sont nécessaires. Elles seront dites par le prêtre ou par le ministre compétent, mais seulement au moment les plus opportuns et dans les termes indiqués ou avec des paroles équivalentes. On favorisera la célébration sacrée de la parole de Dieu aux veilles des fêtes solennelles, à certaines féries de l'Avent et du Carême, ainsi que les dimanches et jours de fête, surtout dans les localités privées de prêtres, en ce cas un diacre ou quelqu'un d'autre délégué par l'évêque dirigera la célébration. La langue liturgique. L'usage de la langue latine, sauf droit particulier, sera conservé dans les rites latins. Toutefois, soit dans la messe, soit dans l'administration des sacrements, soit dans les autres parties de la liturgie, l'emploi de la langue du pays peut être souvent très utile pour le peuple. On pourra donc lui accorder une plus large place, surtout dans les lectures et les monitions, dans un certain nombre de prières et de chants, conformément aux normes qui sont établies sur cette matière dans les chapitres suivants pour chaque cas. Ces normes étant observées, il revient à l'autorité ecclésiastique qui a compétence sur le territoire mentionné à l'article 22, même le cas échéant, après avoir délibéré avec les évêques des régions limitrophes de même langue, de statuer si on emploie la langue du pays et de quelle façon, en faisant agréer, c'est-à-dire ratifier, ces actes par le siège apostolique. La traduction du texte latin dans la langue du pays à employer dans la liturgie doit être approuvée par l'autorité ecclésiastique ayant compétence sur le territoire dont il est question ci-dessus. normes pour adapter la liturgie au caractère et aux traditions des différents peuples. L'Église, dans les domaines qui ne touchent pas la foi ou le bien de toute la communauté, ne désire pas, même dans la liturgie, imposer la forme rigide d'un libellé unique. Bien au contraire, elle cultive les qualités et les dons des divers peuples et elle les développe. Tout ce qui, dans les mœurs, n'est pas indissolublement lié à des superstitions et à des erreurs, elle l'apprécie avec bienveillance et, si elle peut, elle en assure la parfaite conservation. Qui plus est, elle l'admet parfois dans la liturgie elle-même, pourvu que cela s'harmonise avec les principes d'un véritable et authentique esprit liturgique. Pourvu que soit sauvegardée l'unité substantielle du rite romain, on admettra des différences légitimes et des adaptations à la diversité des assemblées, des régions, des peuples, surtout dans les missions, même lorsqu'on révisera les livres liturgiques. Et il sera bon d'avoir ce principe devant les yeux pour aménager la structure des rites et établir les rubriques. Dans les limites fixées par les éditions typiques des livres liturgiques, il reviendra à l'autorité ecclésiastique ayant compétence sur le territoire, mentionnée à l'article 22, de déterminer les adaptations, surtout pour l'administration des sacrements, les sacramentaux, les processions, la langue liturgique, la musique sacrée et les arts, conformément toutefois aux normes fondamentales contenues dans la présente Constitution. Mais comme en différents lieux et en différentes circonstances, il est urgent d'adapter plus profondément la liturgie, ce qui augmente la difficulté. L'autorité ecclésiastique ayant compétence sur le territoire, mentionnée à l'article 22, considérera avec attention et prudence ce qui, en ce domaine, à partir des traditions et du génie de chaque peuple, peut opportunément être admis dans le culte divin. Les adaptations jugées utiles ou nécessaires seront proposées au siège apostolique pour être introduites avec son consentement. Mais pour que l'adaptation se fasse avec la circonspection nécessaire, faculté sera donnée par le siège apostolique à cette autorité ecclésiastique territoriale de permettre et de diriger, le cas échéant, les expériences préalables nécessaires dans certaines assemblées appropriées à ces essais et pendant un temps limité. Parce que les lois liturgiques présentent ordinairement des difficultés spéciales en matière d'adaptation, surtout dans les missions, on devra, pour les établir, avoir à sa disposition des hommes experts en ce domaine.